anglais. On entend légèrement derrière moi en fond sonore le générique qui se lance. Et donc on va vous souhaiter une bonne fin de mardi. Puis on se retrouve quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant la lutte. Dans les rues de son.
Dans le studio du Radio G pour Imaginaire jusqu'à 22h. On va vous parler de plein de choses. Notre stand d'abord jeudi prochain, c'est dans deux jours, à la librairie Richer pour le mois de l'imaginaire. Ensuite, on va vous parler de l'Angers Geek Fest qui aura lieu ce week-end au Parc des Expos. On va aussi vous parler du salon imaginaire qui aura lieu le week-end d'après au salon Kiernoski. Et puis on accueille Patrice, non pas en tant que... C'est pas le professeur Patrice qui vient ce soir, mais il aura la même voix. C'est Patrice Véry, l'écrivain angevin, qui viendra nous parler de son roman, dont j'ai déjà perdu le titre.
Ce qui grignotait le fond de l'univers.
Voilà, tome 1, Les Artefacts, qui vient tout juste de sortir aux éditions Voyelles. Et puis, alors l'Angers Geek Fest, Pierre-Marie, on a encore un pass à faire gagner là ?
Oui, nous avons encore un pass à faire gagner. Donc, la première qui nous appelle au numéro que Romain va pouvoir donner.
02 41 60 47 47. On n'a pas de questions débiles à vous poser. Donc, vous appelez et vous gagnerez un pass de jour. Allez, c'est parti. On commence l'émission avec Tyrannosaurus Imperium qui nous fait toujours sa chronique archéologie. Mais là, il va revenir un petit peu sur l'association imaginaire.
Bonjour les beignets de crevettes. Le fait d'être un dinosaure possède, outre les avantages de ne pas être un mammifère fragile, l'avantage d'être témoin d'événements d'une importance colossale, comme par exemple la naissance d'imaginaire. Pour comprendre la chose, il faut remonter en 1996, la création de Phénoménie au quartier latin. Le truc est monté par Jacques Pinboin. Ah ben non, ça va pas recommencer, écoutez l'émission précédente. Jacques Pinboin donc dit « There is not lizard » et Jean-Yves Lacampa dit « Le chauve jovial bedonnant » ainsi que deux autres associés. La boutique devient très vite le spot de l'occasion jeux de rôle et cartes à collectionner à Paris. La boutique ferme en 2000. Pour les rôlistes, il faut savoir qu'Arnaud Cudet et Benoît Atinost bossaient pour cette boutique atypique où tout le monde du jeu de rôle et de la carte à collectionner passait régulièrement. En 2003, Jean-Yves Villacampa débarque à Angers et fait le tour de la ville avec des amis bouquinistes, du jeu de rôle, du comics. Il se rend compte qu'il existait une place pour un bouquiniste spécialisé dans la littérature de genre. Le chauve se lance. Phénoménie de la version 2 donc ouvre rue Monteau, dans le triangle, cathédrale, ralliement, fleur d'eau, fin 2004. La boutique distribue entre autres et héberge sur son site La Tête en Noir, le célèbre fanzine du Polar Angevin, et ceci dès 2005. Parallèlement, quelques iconoclastes de beau calibre hantent la boutique et sa papote fantastique, horreur et science-fiction, avec entre autres les fameux Patrice Véry, Justin Hurle, Antoine dit Article Unbekannt, ainsi que votre serviteur. 2 ans plus tard, c'est l'idée géniale. Et si on faisait un fanzine science-fiction, fantastique, fantasy, sur le modèle de La Tête en Noir? La Tête en l'air est née. Sous la direction éditoriale de Jean-Yves Lacampin, les 3 noms suscités deviendront des collaborateurs émérites du fanzine, accompagnés d'une 15aine d'autres au fur et à mesure des années. Le succès est au rendez-vous puisque le fanzine finira par se distribuer à 500 exemplaires, avec jusqu'à 1500 exemplaires téléchargés sur le site de Phénomène J. Fiers de leur succès, les iconoclastes se réunissent dans les bas-fonds de la boutique un soir de 2010 et décident de créer l'association Imaginaire, une entité morale. Pourquoi ce choix ? Pour pouvoir traiter, par exemple, avec la municipalité. De cette réunion, qui restera gravée à jamais dans l'esprit collectif des fans de SFFF, naîtront plusieurs choses. Premièrement, l'habitude de se réunir mensuellement autour d'une table chargée de quoi faire ripaille, ceci afin de suivre un chaos du soir, parce que les ordres du jour, c'est bon, sur les activités de l'association et de ses membres. Deuxièmement, un nouveau fanzine, La Tête en Rêve, destiné à un public ado-adolescent sur la littérature de genre. Troisièmement, un festival annuel. Quatrièmement, une anthologie de nouvelles annuelles dédiée à un thème précis. Cinquièmement, une émission de radio bimensuelle. Le tout est soutenu financièrement par Phénomène J sur les 2 premières années, ce qui évite de demander des subventions à des extérieurs et donc avoir à ne rendre de compte à personne, histoire de s'affûter. Il faut savoir que les membres d'association n'avaient jamais organisé d'événements similaires. En 2011, l'association investit la Tour Saint-Aubin au cœur d'Angers pour son premier festival, avec des invités tirés des carnets d'adresses de Jean-Yves Villacampa et Patrice Véry, et des noms prestigieux comme Philippe Caza, Roland et Wagner, Sylvie Denis, et des petits nouveaux, Lionel Davoust, Thomas Géa et David Carra, qui s'apprêtent à sortir le projet Bleiberg. En 2012, toujours dans la Tour Saint-Aubin, se déroule la 2e édition du festival avec Philippe Manchou à l'illustration et des écrivains comme Laurent Genefort, Laurent Wall, ainsi que l'inénarrable martien Robert Darvel et son carnoplaste. En 2013, Jean-Yves Villacampa arrive enfin à convaincre Jean-Paul Guéry de La Tête en Noir à se joindre à la fête. Imaginaire devient alors un festival SFFF et polar, avec la joie d'y retrouver entre autres Jean-Bernard Puy et Jean-Hugues Opel. La municipalité soutient alors Imaginaire, ainsi que la librairie Contact, et l'association bénéficie de l'utilisation gratuite des salons Kurnonski. Cela ne durera pas. En 2018, Pierre-Marie Soncarieux remplace brillamment Jean-Hugues Villacampa à la présidence de l'association, en mode place aux jeunes, et la librairie Richer devient le libraire officiel d'Imaginaire. En 2019, Imaginaire investit les greniers Saint-Jean qui sont pleins à craquer. Outre les écrivains, éditeurs, illustrateurs, le festival est traversé d'animations diverses, tables rondes, interviews, parties de démonstration, cosplay et un concert variant de musique classique à hard rock en passant par piano bastringue et jazz ménouche. En 2021, Covid faisant, le festival a dû être reporté dans une version plus courte, d'où le nom de Festival 9.5. Le 10e aura lieu l'année prochaine. Festival qui aura lieu sur une seule journée le samedi 24 octobre dans les salons Kurnonski, où, pour la première fois, l'association Imaginaire remettra son premier prix littéraire, le prix Heyerdahl, à Jean-Marc Ligny pour l'ensemble de son œuvre. Venez nombreux, d'ailleurs j'y serai sous une forme camouflée, et mettez votre masque ou je vous bouffe.
Ah, des tam-tams préhistoriques presque, hein, parce que c'est la musique de Cro-Man, fait par Gnoll. Gnoll, je pense, je l'ai déjà passé dans cette émission, parce que c'est un peu le groupe maison du label italien Heimat der Katastrophe. Ils avaient fait la...
Italien.
Je pense que ce sont les Italiens. Ouais,
enfin, alors, ça ne sonne pas très italien, ça, plutôt allemand.
Oui, tout à fait. Et ils avaient commencé par faire, je crois, comme les autres, plutôt des BO de scénarios de Donjons et Dragons, on va dire. Ensuite, ils avaient fait la musique de Morgborg, dont j'ai pas mal parlé dans cette émission, qui a quand même gagné, je crois, le Ennis, enfin, deuxième meilleur jeu de rôle de l'année, si je ne m'abuse. Et puis, ils ont fait la BO de Zargos. Alors, Zargos, quand même, hein, fallait se lever tôt dans les années 80 pour jouer. C'était un jeu de plateau avec diverses factions, avec des petits hexagones. Tu pouvais jouer soit un petit peu des gens ailés,
soit wargame du coup. Alors.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était un wargame, ouais. Italien d'ailleurs, je crois, fin des années 70, début des années 80. Et là, cette nouvelle BO, Cro-Man. Alors Cro-Man, regardez-le. C'est même plus un jeu. Enfin, c'est une figurine.
Regardez-le
sur l'écran là, Cro-Man.
Mais nous, oui, on peut. Mais les auditeurs.
Cro-Man chez Underworld Muscle. Et Underworld Muscle, ben, c'est un Allemand qui fait tout seul lui-même des figurines. Ça ressemble quand même beaucoup aux figurines Mattel, la série des maîtres de l'univers les années 80,
un petit peu ça,
qui était quand même sérieusement musclé, hein, ces petits personnages. Regardez-moi tous les beaux personnages.
Oui, ils ressemblent beaucoup à He-Man.
Ouais, c'est Musclor en français, ouais. Et là, c'est un peu plus préhistorique, mais ça ressemble un peu. Et si le Underworld Muscle, le mec fait ses figurines à la demande, je crois, à l'unité. Hein. Donc ça va vous coûter un petit peu plus cher. Quoique, essayer de trouver une figurine de Musclor aujourd'hui, à mon avis, ah ouais, c'est vrai, ben, revends-la dans un vide-grenier, tu vas voir. Et que dire de plus? Ben voilà, c'est rigolo, quoi.
C'était très drôle.
Allez, c'est l'heure de la chronique de Bess.
Oh. Here's Johnny.
Hello, Sydney.
Ah non, c'est le générique de Bess.
Ne parlez pas sur mon générique.
Oh, it burns.
Ah, il y a des gens qui parlent sur ton générique.
On vous tient pas là. Ce soir, Back to the 70s, avec un petit film trouvé sur la plateforme française Shadows, où j'ai ouvert un compte. Il y en a qui ouvrent des comptes en banque, moi j'ouvre mes comptes chez Shadows. Donc d'ailleurs, si vous êtes comme moi fan de films d'horreur, fantastiques ou même de polar, Shadows c'est une plateforme sympathique où vous pourrez trouver votre bonheur. Mais fin de la parenthèse, Back to the 70s, disais-je, avec Asylum, un petit film britannique de 1972 signé Roy Ward Baker à la réalisation et Robert Bloch au scénario. Est-ce que vous connaissez ce monsieur?
Robert Bloch, oui.
C'est le scénariste de Psycho.
Tout
Psychose.
À fait.
Entre autres.
Aussi un bon écrivain.
Plein de nouvelles. Il était chez Octa dans les années 80.
Arrêtez de la couper, elle a peut-être envie de
continuer. Mais non, justement, je posais une question.
Il posé une question, on y répond.
Et le réalisateur du film, Roy Ward Baker, je crois, pas mal fait de films pour la Hammer. Donc un peu la grande maison de production.
Pareil, c'est chez Marabout aussi.
Film fantastique anglaise des années 60. Mais là, c'est plutôt la Amicus, je crois, hein, ça. Il a... Bref,
voilà.
Je te pose une colle.
Ouais, c'est pointu, c'est trop pointu pour
aussi.
Moi. Mais on va fermer là cette seconde parenthèse. On va se concentrer sur le film. Donc c'est 89 minutes dans un asile perdu en Angleterre, avec entre autres Robert Powell, Richard Todd, Peter Cushing et Charlotte Rampling. Oui, oui, Charlotte Rampling. Alors, ça me fait dire que mon père n'aurait jamais pu regarder ce film, vu qu'il déteste cette actrice. Mais il déteste les films d'horreur aussi, donc bon. Allez, hop, on referme cette dernière
parenthèse.
Est-ce
qu'il aime la musique de Jean-Michel Jarre?
Ah, je ne crois pas non plus, tu
vois. C'est sa femme, je crois.
C'était Isabelle Adjani, sa femme, Jean-Michel Jarre.
Non, ça a été Charlotte Rampling.
Aussi.
Ah ouais.
Oh là là.
C'est les feux de l'amour.
Ton beurre, Jean-Michel.
Incroyable. Allez, le film.
Oui.
On se concentre.
Ouais.
Donc, l'histoire. Le docteur Martin, Doc Martin, postule pour une place de psychiatre dans un petit asile paumé en Angleterre. Il est accueilli par le docteur Rutherford, qui souhaite le soumettre à un petit test. Il lui explique que son collègue, le docteur Starr, est devenu fou et a été interné dans son propre asile. Donc, au docteur Martin de rencontrer les patients et de retrouver qui est Starr. Comme entretien d'embauche, j'ai pas trouvé plus original. Je vous avoue, comme vous, comme moi, que le jeune psy est assez déstabilisé, mais il va se plier au jeu. Il monte donc à l'étage où l'attend un infirmier qui va lui présenter 4 patients. 4 histoires à entendre pour retrouver le docteur devenu fou. Le film va donc se diviser en 4 segments. Alors moi j'aime bien ce genre de film, on a des petites histoires dans la grande histoire. Et dans le même genre, je vous conseille d'ailleurs un film qui s'appelle Terror Tract, qui se joue dans le milieu immobilier. Très sympa aussi. Et un peu plus récent. Alors ces 4 histoires dont je vais vous faire un petit pitch, ça, voilà, elles ont toutes un nom qui s'affiche même au générique de fin. Donc elles ont toutes été travaillées comme un petit court-métrage à part entière avec un petit scénario, une ambiance. Et on va faire un peu le tour sans que je vous en dévoile trop. Enfin, en tout cas, je ne vous dévoilerai pas les twists, etc. Alors la première histoire s'appelle Frozen Fear. Là, le docteur Martin va faire la connaissance de Bonnie. Celle-ci va lui conter comment elle était la maîtresse de Walter. Et tous les deux, ils avaient orchestré le meurtre de la femme de Walter. La pauvre va finir dépecée dans un congélateur. Malheureusement, quand les membres découpés de la pauvre femme reviennent à la vie, on peut dire que leur plan a capoté. Alors, est-ce que Bonnie, elle a halluciné? Ou est-ce qu'elle est le docteur Star qui a changé de personnalité? Bonne question. Deuxième histoire, The Weird Tailor. Rencontrons Bruno, qui est un vieux tailleur. Son histoire est singulière et c'est ma préférée des 4 segments. Dans une ambiance très sombre, Bruno nous raconte qu'alors qu'il était au bord de la faillite, un homme étrange est venu lui faire une étrange proposition. Coudre un costume pour son fils dans un tissu bizarre et selon des contraintes tout aussi bizarres. Bruno s'exécute, livre le costume et découvre avec effroi qu'il a cousu un habit magique. Oh là là, je vous dirai pas pourquoi, mais ça fait froid dans le dos. C'est un petit conte gothique vraiment très sympa. On a aussi Lucy Comes to Stay. Alors c'est une histoire plus classique là. Barbara revient chez elle après un séjour à l'hosto. Confiée à une infirmière, elle va devoir se plier à ses ordres. Mais c'est sans compter sur Lucy, sa meilleure amie, qui va tout faire pour l'aider à s'échapper. Tout faire jusqu'à l'impensable. Mais qui est vraiment Lucy? Ou plutôt, qui est vraiment Barbara? Et serait-elle le docteur Star devenu fou? Et enfin, la quatrième histoire, Mannequins of Horror. Cette quatrième et dernière histoire, bon, elle est pas trop mal. Notre jeune doc va rencontrer un confrère qui se présente comme le docteur Byron. Byron, son truc, c'est de fabriquer des poupées au corps de robots, mais à visage humain. C'est pas très joli, joli. D'ailleurs, il en a fait une à sa propre image et projette d'y mettre sa conscience pour lui donner vie. Dis donc, il tournerait pas très rond, celui-ci, mais il se présente comme docteur. Alors, est-ce que notre jeune postulant va réussir son entretien et désigner le bon patient? Je ne vous le dirai pas, bien entendu, c'est encore une autre histoire. Cependant, je retiendrai un discours intéressant. Ce jeune médecin s'oppose dans ses discussions au docteur Rutherford et sur les méthodes de l'asile. Selon lui, les patients ne sont pas traités correctement, là où lui tenterait la bienveillance et la gentillesse, ce qui va à l'opposé de l'autre pour qui ces fous sont des cas désespérés. Et je pense que dans les années 70, ce type de discours était très intéressant à introduire sur l'institution psychiatrique. Le film a donc un petit parti pris sous couvert d'une histoire d'horreur, ou plutôt de 4 histoires d'horreur. Et moi j'aime bien quand les films d'épouvante font une petite critique de la société. Et qu'est-ce qu'on en dit de Xylem? Que c'est plutôt un bon film. Le scénario est plutôt cool. Le coup du film à sketch sert très bien l'histoire. En termes de réalisation, rien de bien original, même si certains plans un peu parfois sont foufous, mais pas trop quand même. Les acteurs jouent bien. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est bien sympathique à regarder sous un plaid avec une bonne tasse de thé à l'anglaise. Et pour se quitter en musique, je ne vous propose pas La nuit sur le mont Chauve qui ouvre et ferme ce long métrage, mais une chanson sur la folie et l'asile, Welcome Home Sanitarium de Metallica.
Metallica dans Imaginaire sur le 101.5. On vous rappelle qu'on a un pass deux jours à faire gagner pour l'Angers Geek Fest. Alors vous pouvez nous appeler au 02 41 60 47 47. Maintenant, on va discuter avec Patrice Véry de son premier space opéra, roman de space opéra.
Au niveau des romans, oui, j'ai écrit une nouvelle au moins de space opéra.
Il y en avait plus.
En ce qui est des romans, c'est mon deuxième roman et mon premier space opéra.
Il y avait déjà, on va dire, de la science-fiction dans ton recueil de nouvelles Héroïne.
Pour demain et après.
Voilà.
Ça, ça, c'était un recueil de science-fiction.
Oui.
Et là-dedans, il y a des nouvelles. Enfin, il y a au moins une nouvelle de space opéra.
C'est quoi le space opéra ?
Bon, le space opéra, c'est de l'aventure spatiale, des combats spatiaux, des extraterrestres. Enfin, c'est la guerre des étoiles. Mais bon, ça, moi, c'est
un peu comme sur cette couverture du roman.
C'est vrai que la couverture de Mathieu Cédas pourrait faire penser un petit peu à la guerre des étoiles, parce qu'il y a une sorte de combat spatial, des vaisseaux, une station spatiale, en orbite autour de Mars.
Qui prend un petit peu des dégâts, là, quand même.
D'accord, oui. Mais ça, ce n'est qu'une partie, parce que bon, c'est un space opéra temporel, mais ce n'est pas la guerre des étoiles. J'ai parlé de la guerre des étoiles, parce qu'on pense tout de suite à ça quand on parle de space opéra. Ce n'est pas la guerre des étoiles, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres à tous les coins de rue. Il n'y a pas de barre des extraterrestres. Pour citer un peu, au début du roman, les humains connaissent deux races, on va dire. Après, c'est pas énorme. Non. Après, il y a celles qu'on ne connaît pas, mais ça, j'en parlerai pas. Ensuite, les combats spatiaux, il y a forcément des combats spatiaux dans un space opéra, mais ce n'est pas non plus des combats spatiaux à la vitesse de la lumière, façon Star Wars. Ce sont plutôt des combats spatiaux dans lesquels il faut jouer avec la gravité. Plus proche des combats navals de l'ancien temps où il fallait faire attention au vent, couper le vent à l'autre, etc. Donc c'est des manœuvres compliquées. Et dans l'espace, quand on n'est pas en voyage subluminique, qui permet d'aller vite, donc quand on est dans l'espace conventionnel, il y a la gravité, ça joue dans tout ce qui se passe comme déplacement. Donc c'est déjà une autre différence avec la... Ensuite, bien entendu, j'ai parlé de space opéra temporel, donc il y a une petite histoire de voyage dans le temps. Là aussi, j'ai essayé de me démarquer par rapport, on va dire, il y en a autant qu'on veut, mais aux deux grands courants de voyage temporel qu'on peut rencontrer. Le premier étant, à chaque fois que je fais une modification du passé, ça crée un monde parallèle, et donc voilà, il n'y a pas de paradoxe, puisque chaque modification, on est dans un autre monde qui n'a rien à voir avec le premier. Et l'autre, qui est le genre boucle infinie, comme dans, si ma mémoire est bonne, le disque rayé de Kurt Steiner, dans lequel en fait un personnage se débat pour essayer d'éviter qu'il se passe quelque chose qui ne finit par conforter. Alors, il y a un autre bouquin atypique d'ailleurs sur le thème, je fais une parenthèse aussi moi, sur le thème des voyages temporels, c'est L'équilibre des paradoxes de Michel Pagel, qui est extrêmement bien ficelé de ce point de vue-là, et très inattendu. Donc voilà, je voulais un peu me démarquer de ces courants-là et essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu à la limite. Alors, on vous parlera de boucles infinies, de boucles maîtrisées, et voilà, de choses comme ça qui sont... Alors, on va peut-être retrouver un peu du professeur Patrice, d'ailleurs. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas non plus un traité de physique que j'ai essayé de me caser dans un univers à peu près cohérent, un peu crédible au départ, mais bien entendu, dès qu'on passe dès qu'on dépasse la vitesse de la lumière, on est vraiment dans la science-fiction. Là encore, je n'ai pas fait comme dans Star Wars, du style, je prends une petite navette, j'appuie sur un bouton et boum, ça y est, je suis à l'autre bout de la galaxie. Là, moi, j'ai
alors,
quatre.
C'est pas exactement ça dans Star Wars, c'est uniquement dans les films.
Oui, peut-être dans les films, oui. Mais là, disons que j'ai quatre niveaux de déplacement. J'ai le déplacement en mode conventionnel, avec des moteurs ioniques, quoi, un grand classique. Mmh. Ensuite, j'ai ce qu'ils appellent la sécante, c'est-à-dire une sorte de raccourci temporel qui s'affranchit des géodésiques et qui te permet de voyager à peu près à la vitesse de la lumière. En gros, ça te permet d'aller de la Terre à Mars en 15 minutes. Après, tu as la distorsion gravitationnelle. Alors là, ça va déjà beaucoup plus vite. Tu peux atteindre en un mois une étoile située à 70 années-lumière. Et puis, il y a les plus gros vaisseaux. Parce qu'évidemment, chaque technique nécessite des vaisseaux particuliers. Donc, tu peux pas... Si les plus gros ont les techniques inférieures, les plus petits n'ont pas les techniques supérieures. Mmh. Et le plus gros vaisseau, là, les stellaires, qui sont d'énormes vaisseaux d'un kilomètre de long, souvent utilisés par les militaires. Alors là, en gros, en 4 jours, ils sont à peu près n'importe où dans la galaxie. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser les déplacements et de créer parfois du suspense en fonction du mode utilisé. Sachant d'autant plus qu'on ne peut pas sauter dans l'espace non conventionnel, proche des planètes ou proche des autres vaisseaux, car ça détériore des composants. Donc on est obligé au départ de commencer doucement, puis d'arriver. Okay. Donc voilà, ça c'est pour le décor.
Ouais, et alors pour le décor aussi, on est dans un contexte politique tendu. Elle ressemble à quoi l'humanité là?
Alors ça ressemble un petit peu, je sais pas si c'est
de l'ère
spatiale.
J'oublie
toujours le nom de cette série là qui est sortie, on croit qu'on est au 3e, 4e saison.
The Expanse.
The Expanse, voilà. Il y a un peu de ce genre-là, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte. Alors, j'ai pas non plus créé, donc là encore, je reviens, comparaison, j'ai pas des grands empires galactiques, une Terre unifiée qui se bat dans tous les contre d'autres empires. La Terre a traversé un âge sombre, ça c'est un truc bien pratique pour éviter d'avoir tout décrit ce qui s'est passé entre
c'était
maintenant et après.
C'était un autre de tes romans, ça. Celui qui, le fou qui volait la tête en bas.
Il y avait déjà l'âge sombre, non, c'est peut-être ça l'âge sombre.
Ouais, ouais.
Et après, ben, disons qu'il y a eu des regroupements de nations en fédération. Et les fédérations, bon, il y en a une dizaine, ont exporté leur modèle politique dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, tiens, la Fédération Amérique du Sud découvre un système solaire avec des planètes habitables, hop, ils prennent le système solaire, et donc on trouve un système solaire, un système stellaire sud-américain, un autre nord-américain, un russe, un européen, enfin, donc voilà, c'est un peu... Donc ça donne aussi un équilibre assez intéressant, parce que malgré... Bien que les êtres humains soient un petit peu assagis après l'âge sombre, parce qu'ils se sont rendus compte quand même que la pollution, les guerres, les maladies, tout ça, c'est pas terrible. Mais il y a encore des tensions liées à des problèmes économiques, à des voilà. Donc ça effectivement, ça c'est le contexte politique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour l'instant je ne parle que du décor. C'est que dans ce contexte-là, voilà qu'il y a des objets, des artefacts, des objets mystérieux qui vont apparaître brutalement. Sur Terre, dans la galaxie, et on ne sait pas d'où ils viennent, et parfois ce sont des trucs assez dangereux, je n'en dirai pas plus, d'autres ça paraît tout à fait anodin, une grosse sphère de diamants, bon. Et voilà.
Et donc les personnages principaux de ton roman mènent l'enquête?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la première partie se déroule... Alors pourquoi première partie, deuxième partie? Ouais. Parce que c'est un gros roman, donc 950 000 signes, pour ceux à qui ça parle, et que du coup, dès que ça dépasse une certaine épaisseur, les petits éditeurs, ils n'aiment pas trop, parce que, question courrier, bon, on passe dans les tarifs supérieurs, après ça rentre plus dans les boîtes aux lettres, voilà. Donc,
ça fera mon éditrice, 300 pages.
Mon éditrice m'a dit, on le coupe en deux, bon, pas de souci, donc c'est la première partie. Tout est écrit, hein, c'est vraiment un seul roman qui est tronçonné en deux pour des raisons techniques, et la deuxième devrait partir, paraître février de l'année prochaine. Donc okay. assez rapidement, laissant le temps au
lecteur de lire. Parce que là, le premier roman s'arrête peut-être de façon un petit peu abrupte.
Ah ben, c'est comme si... Mais le Seigneur des Anneaux, c'est le même principe. Hein. Il y a un seul roman, mais il est divisé en trois parties, et puis ça se suit. Quoi. Il y a pas de... C'est pas comme on dit une trilogie où il y a, bien que le contexte avance globalement, on peut avoir... il faut le lire dans l'ordre, une trilogie en général. Mais il y a souvent une fin provisoire à la première partie, puis après on aborde une deuxième. Donc voilà, c'est vraiment un seul roman qui est coupé en deux. Donc à la fin de la première partie, il n'y a pas un twist-off complètement infernal, mais c'est vrai qu'on peut se dire, et ma solution, alors j'ai pas compris, moi, je fais la suite. Et donc les personnages, cette première partie se déroule sur une vingtaine d'années, si on accepte le premier chapitre qui se déroule en 126 avant Jésus-Christ. Ah. Et le prologue, dont je ne dirai pas quand il se déroule, justement. en fait, le reste se déroule à peu près sur une vingtaine d'années, donc ça permet d'avoir des personnages qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent, et qui sont effectivement, pour certains, entraînés, non pas dans l'enquête pour résoudre ce... Mais malgré eux, dans cette affaire qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui sont... des tentatives de meurtre sur certains, il y a des... Voilà. Donc, je ne peux pas en dire trop non plus, sinon je vous raconte le bouquin. Là. Et voilà, c'est des personnes... Et il y a vraiment... Alors, moi, c'est ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est effectivement les personnages. Donc, il y a beaucoup de personnages, un peu comme dans Le Fou qui vole la tête en bas, parce que l'histoire est plutôt décrite. Alors, si je prends toujours cette comparaison parce qu'elle est assez parlante pour les cinéphiles, c'est la différence entre Le Jour le plus long de... Zemeckis, non, c'est pas ça.
Non.
Le Jour le plus long, grand film sur le débarquement, tout ça.
Ouais.
Robert Zemeckis, je crois.
Non, un de ses ans, son
Zanuck, pardon.
Son père,
c'est avec ça qu'il y a un Z.
Oui, c'est Zanuck. C'est Zemeckis, c'est plutôt.
Non, ça n'a rien à voir. Et il faut sauver le soldat Ryan. Dans un côté, on a une grande fresque historique avec parfois des zooms sur des trucs qui se passent. Et de l'autre côté, on a vraiment les trucs vus de l'intérieur du point de vue des personnages. Et moi, c'est plutôt ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages, parce que pour rendre compte de l'histoire, finalement, tous les personnages sont à leur manière importants. Et même certaines fois, des personnages secondaires ont leur importance pour vraiment faire rentrer le lecteur dans l'ambiance et dans le... Et notamment, effectivement, alors tu parlais de la couverture tout à l'heure, il y a cette fameuse station spatiale. Alors, station spatiale qui fait 30 km de circonférence.
Petite, hein, alors, franchement.
Non,
petite.
Mais ça, c'est Roland Lehoucq que nous avons.
Président des Utopiales.
Oui, c'est ça. Qui m'en a donné l'idée dans un livre. Il expliquait les stations spatiales. Il disait, mais en fait, il y a un problème, c'est qu'on fait toujours des stations spatiales trop petites. Des stations spatiales qui tournent pour créer une gravité, voilà, et que les gens qui sont dans la couronne, ils ont les pieds vers l'extérieur de la station. Le problème, c'est que si cette station est trop petite, elle va être obligée de tourner assez vite pour créer cette pesanteur. Alors que si elle a un grand diamètre, elle pourra tourner plus lentement, alors, et la vitesse à l'extérieur sera
suffisante. Ça s'appelle une centrifugeuse, et il y en a à la Foire Saint-Martin toutes les années.
Voilà. Sauf que le problème, c'est que si ça tourne trop vite, il va se passer une chose un peu désagréable, c'est que la différence de vitesse entre ta tête et tes pieds, elle est assez importante. Et quand tu vas vouloir te déplacer, finalement tes pieds et ta tête vont pas marcher à la même vitesse, ce qu'on appelle les forces de Coriolis, et tu vas te casser la figure. Donc voilà, c'est vaut mieux pas.
Il y en a sur Terre qui n'ont pas besoin d'être sur une station pour se casser la figure.
C'est un fait. Donc voilà, donc moi j'ai pris une grande station, 30 km de périphérie, de circonférence, et là ça permet de tourner assez lentement. Et puis il y a le noyau de cette station qui permet au vaisseau, alors qui est en gravité zéro, qui permet au gros vaisseau d'accoster tranquillement, sans avoir à faire des manœuvres compliquées, etc. Donc voilà, c'est un endroit important de l'histoire dans lequel... Bon, je ne parlerai pas de la planète Unukalai, qui est connue aujourd'hui, c'est son vrai nom, Alpha Serpentis. Alpha Serpentis, c'est l'étoile principale de la constellation du Serpent, qui est en fait une étoile triple. Et voilà, il y a un groupe de scientifiques qui est parti étudier cette étoile et qui va tomber sur une race extraterrestre un peu étrange, qui n'a jamais vu les étoiles.
Ok.
Voilà, enfin bon, c'est quelques éléments pour vous donner envie de...
Et on ne te demandera pas ce qui grignotait le fond de l'univers, on le saura en lisant ce roman, donc.
Voilà, comme tous mes titres, c'est souvent un détail de l'histoire que j'aime bien, parce que ça donne une métaphore intéressante, voilà.
On va passer un petit peu de musique, mais toujours une histoire de planète, c'est le titre d'une planète, c'est Giedi Prime.
Ça
vient de...
Ça vient de Dune, bien sûr.
Et oui, bon.
C'est la planète des Harkonnen.
On écoute donc un morceau de la BO de Dune, mais alors sorti chez Bibliothèque, je vous avais déjà parlé de ce label anglais, eux ils font des musiques de livres.
Ah oui, très bien.
Et donc Rupert Lally a fait une musique pour Dune, le roman de Frank Herbert. On s'écoute à tout de suite, puis on reparlera de Dune et de ton roman dans quelques minutes sur le 101.5. Sur le 101.5, on a pas mal de trucs à vous raconter. Si vous voulez écouter cette BO de Dune par Rupert Lally, elle a 2 ALY, vous pouvez aller sur sa page Bandcamp, parce que la cassette, elle est complètement épuisée. Bibliothèque, puis il tire à 50 exemplaires, je crois. Donc c'est déjà introuvable. Pourquoi je vous passe aussi du Dune ? Parce que jeudi, on sera à la librairie Richer, on aura un stand imaginaire, notamment avec Patrice, hein, qui sera là aussi pour dédicacer ceux qui grignotaient le fond de l'univers. Mais on aura un stand où aussi on vendra nos anthologies, notamment la nouvelle, et puis on aura des cadeaux, des goodies aussi qui sont offerts le mois de l'imaginaire. Tu peux résumer un peu, Pierre-Marie, hein.
Oui.
C'est beaucoup d'éditeurs de SFFF français.
Tu voulais que je résume ou tu voulais
Ouais, vas-y, allez.
non, c'est... Depuis quelques temps, les éditeurs de l'imaginaire français, exactement comme le dit Romain, se sont réunis en se rendant compte que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée littéraire et que les grands absents de la rentrée littéraire et de tous les prix qui y sont, c'est l'imaginaire. Alors que l'imaginaire, il faut savoir que c'est un des genres les plus vendus et les plus lus en France. Et donc les éditeurs se sont réunis de manière à dire que octobre serait le mois de l'imaginaire et qu'il s'y passerait plein de choses. On allait concentrer l'effort, mettre en commun, mutualiser les efforts de la part des maisons d'édition pour mettre en avant à la fois des auteurs et des champs de compétences. Donc on se retrouve avec beaucoup de librairies qui ont des goodies ou qui ont des collections particulières à mettre en avant, beaucoup de tables rondes sur les métiers de l'édition ou sur des fonds universitaires liés à l'imaginaire.
Et donc nous on vous fera gagner des t-shirts, qu'est-ce qu'il y a, des carnets,
des coussins, des jeux de cartes.
Non, il y a pas de coussins. Oui, il y a des jeux de cartes aussi.
Des coussins, hein,
et
des
il y a des affiches aussi donc offertes par les différents éditeurs. Et puis pour ça quand même on vous fera un petit quiz sur Dune. Donc qui est remis en avant parce que là on a
celle du Pilat à côté de Bordeaux.
Et c'était ma blague ça.
Il y a une belle édition de Dune qui vient de ressortir là où là le roman a été un tout petit peu retouché et enfin au moins la version française je veux dire. Et puis il y a un MOOC qui arrive mais qui va sortir en novembre je crois, hein. Donc entre le magazine les books, ouais,
voilà, un MOOC, moi je ne savais pas,
consacré à Dune,
c'est un magazine book.
On parlait de Roland Le Houx tout à l'heure, je pense qu'il aura une
MOOC bien français,
rubrique scientifique là dedans on retrouve plein de gens qu'on aime bien, il y a plein de dessins de Rolien Polis,
il y aura aussi quelques images, il a l'air super.
Sébastien Cellerin aussi qui fait un truc sur le jeu de rôle, enfin plein d'articles intéressants, et puis le film de Denis Villeneuve qui est reporté, alors là maintenant,
bien reporté,
à 2021, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et voilà, pour le mois de l'imaginaire, donc voilà, jeudi de 15h à 19h à la librairie Richer, et ce week-end ce sera l'Angers Geek Fest. Je voulais juste vous, parce que j'ai le temps, hein, je sais pas trop, je vous avais prévu une petite musique de jeu vidéo, allez on se l'écoute vite fait, c'est méga Keno. Ah ouais, puis je voulais passer le vinyle, non c'est mort. Hein. La BO de Slime San. Allez, une minute. Tu peux le garder, ce beau vinyle, la BO de Slime San. Slime San, c'est un jeu d'arcade, mais rétro. Bon, enfin, en même temps, quand on entend cette musique
très
qui est très 8 bits, méga Keno, là, on situe tout de suite un jeu de plateforme. Mais Slime San, je crois que c'est un peu un genre de crotte de nez, quoi. En fait, je sais pas trop.
Non, Slime, c'est de la boue.
Ah bon, c'est une espèce de petit tétard, je sais pas trop.
Tu joues à Final Fantasy, hein.
Non.
Slime, c'est du slime, quoi.
Ouais,
c'est,
moi j'aurais dit que c'était de la morve, hein,
Ouais, ça tient plus de la morve que de la bouffe, je pense.
Bon, bref, je vous ai passé ça, parce que l'Angers Geek Fest, ce week-end au Parc des Expos, ça va être très gaming quand même.
Ah bah, plus que ça, oui, tout à fait. Alors, l'Angers Geek Fest, c'est donc le 17 et 18 octobre, c'est ce week-end. C'est l'entreprise Leno qui s'associe avec Destination Angers, une émanation de la municipalité, de l'agglomération, pour organiser un Geek Festival à Angers, où ils attendaient à la base 10 000 personnes. Vu le contexte sanitaire, ils ont baissé un petit peu la jauge. Dedans, beaucoup de gaming, avec notamment pas mal de compétitions e-sport, puisque Monsieur Béchu, notre maire, souhaite mettre en avant Angers dans la catégorie des endroits de e-sport pour des compétitions nationales. Beaucoup de cosplay, avec 5 cosplayers de niveau national qui sont angevins et qui vont représenter.
Il y aura un gros concours, du coup.
Il y aura un gros concours, mais nous recevons Arkonos, nous recevons, alors je fais comme si j'en faisais partie, mais pas du tout, hein. Arkonos, qui est un cosplayer qui est le représentant de toute la Bretagne au niveau international pour les cosplays. Il va y avoir un petit peu de littérature, mais c'est un peu le parent pauvre du Geek Festival.
Oh, t'exagères.
Et un concert de Entropie Zéro, notamment.
Ouais. Ah bah, puisqu'on parle de cosplay, bien. Là, qui sortent leur nouveau morceau FPS. C'est un peu gaming, ça, comme référence.
Oui, First Personal Shooter, qui est un style de jeu où on voit à la place du personnage que l'on joue.
Comme Doom, par exemple.
Comme Doom, mais pas que. Comme
il faut tirer sur tout ce qui bouge.
Portage, par exemple. Voilà. Beaucoup, il y a de plus en plus de jeux d'énigmes, de casse-tête qui se font en FPS. Et ça permet une immersion un peu plus importante.
Et alors, il y aura plein de cosplayers aussi dans le prochain clip de FPS d'Entropie Zero, d'après ce que j'ai pu voir sur la page Facebook.
Oui, ils ont fait appel à des...
J'imagine que dimanche, je crois qu'ils jouent à 14h, donc au Parc Expo, il y aura pas mal de cosplayer sur scène avec eux.
Indépendamment de tout ça, une grande part est laissée à la geek et à la pop culture, au Geek Festival, puisque nous recevons un acteur des films Harry Potter, Devon Murray, qui nous vient et qui vient dédicacer ses photos, puisque chez les Anglais, chez les Américains, chez les Anglo-Saxons dédicacent les photos et en général sont payantes. Alors en France, on ne va pas faire payer, mais c'est sur réservation uniquement.
Ouais, je crois que la rencontre avec lui,
c'est l'acteur de Seamus Finnegan dans la saga des Harry Potter. Donc c'est pas forcément quelqu'un qu'on voit beaucoup, mais qui est très important dans les livres,
en tout
beaucoup
cas,
plus
il
important
a joué
que
dans tous les films.
Et à cet événement, à cette occasion-là, une rencontre de Quidditch. Va se passer au Geek Festival. Alors c'est un peu bizarre puisque normalement le Quidditch,
c'est vraiment des balais volants.
Voilà, normalement ça se passe sur des balais volants. Là, les personnes vont courir avec un balai entre les jambes. On perd un peu en classe, mais ça a le mérite d'exister.
Je suis sûr que c'est très sportif.
Il y aura aussi une expo Harry Potter.
Il y a une expo Harry Potter et il va y avoir une démonstration de l'Anjou Saber Club. Nos amis, les combattants de Jedi, qui font à peu près tous les événements liés à Star Wars, et là ils viennent faire des démonstrations et présenter surtout leur association.
Il y aura aussi une expo Star Wars avec, j'ai perdu son nom, ce monsieur qui va et qui sera là. Hein. Je crois même qu'il a une conférence qui prend en photo des endroits un peu emblématiques des films Star Wars.
Oui.
Genre le désert tunisien ou Tatooine en vrai.
Dans les endroits où ça a été tourné.
Voilà, c'est ça, ouais. Si je ne m'abuse. Et beaucoup de youtubeurs aussi.
Beaucoup de youtubeurs, ouais. Beaucoup de vulgarisateurs, notamment une grande part est laissée à la vulgarisation scientifique, puisque le geek se base sur beaucoup de sciences dures. Paléographie, qui est une chaîne de vulgarisation.
Paléosphère, je crois.
Paléosphère, excuse-moi, ouais. Sur le paléontologue.
Ouais, il faudra qu'on les reçoive un jour dans l'émission.
Il va y avoir une
dinosaures.
Course de drones. Si vous avez des drones, vous pouvez vous inscrire. Donc c'est une course Anjou Drone Racer, qui est une organisation qui existe depuis 2 ans maintenant sur Angers.
On aura aussi une partie jeu de rôle avec les associations les conjurés du temporel et puis les arts ludiques. Et on aura aussi, ça c'est ma bonne nouvelle du jour, il y aura un stand de Black Book Edition et on pourra tester Monstre, leur nouveau jeu de rôle qui est tiré de Johan Svar. Hein, donc le jeu de rôle est complètement illustré par Johan Svar. C'est une espèce de best-of de tous ces personnages, petits vampires, etc. Et le jeu est en financement participatif en ce moment. Donc voilà, il doit rester une semaine, quelque chose comme ça. Et moi je suis très impatient de pouvoir jouer à ce truc.
Dans les invités qu'il faut quand même mettre en avant, 4 invités qu'il faut mettre en avant, il y a Noob qui se représente, qui était une chaîne, une sorte de sitcom sur l'univers jeu de rôle, où ce sont des personnes qui jouent sur une chaîne YouTube des héros de jeux de rôle et qui leur fait vivre.
Il y a une
BD
qui a été sortie là-dessus.
Il y a une BD qui est sortie tout à fait, mais c'est l'époque Camelot. Pierre-Alain de Garrigues qui sera présent. Alors lui, c'est un nom qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est une voix off, qui a participé à beaucoup de choses que tout le monde connaît, par exemple Les Guignols de l'Info et Groland, mais pas que, puisqu'il a fait beaucoup de voix dans les jeux vidéo, notamment Adi, le vieux jeu, l'ancêtre de Adibou, mais aussi Abe, l'Odyssée d'Oddworld, ou alors dans World of Warcraft, Hearthstone ou Rayman, où il joue des personnages, forcément les héros, mais des personnages, il en fait partie, d'ailleurs il fait souvent plusieurs voix au sein d'un même jeu. Occulture, qui est une scène sur la culture occulte, nous allons recevoir Sandy Macar,
Lagdar,
presque, on y était. Sur Angers, terre de légende proche de la Bretagne, nous avons quand même pas mal de choses liées à la culture et à l'occulte, les sorcières.
Je crois qu'on en parlera beaucoup dans notre prochaine émission qui sera juste quelques jours avant Halloween.
Tout à fait. Et enfin, Eva t'expliquer, qui est une chaîne sur de vulgarisation, encore un couple qui se déplace, qui vont rencontrer des scientifiques et qui font de la vulgarisation, notamment à destination de tout ce qui est lycéen et jeunes études supérieures, de manière ouvrir des portes et des concepts. Voilà.
Il vous reste 8 minutes pour gagner un pass d'ailleurs pour l'Angers Geek Fest.
Je vous rappelle juste les tarifs en ligne. Le pass de jour est à 15 euros, le pass samedi est à 10 euros, le pass dimanche est à 9 euros, pass obligatoire. Et sur place, le pass samedi est à 12 euros et le pass dimanche est à 10 euros. Les enfants entre 6 et 12 ans sont à 5 euros par jour.
Et donc 10h, 19h samedi
et 10h, 18h dimanche.
Dimanche, venez avec un masque.
Masque obligatoire, distanciation sociale, gel hydroalcoolique à l'entrée pour se laver les mains et surtout, pas de sac.
On a le temps d'écouter un petit peu Entropie Zéro quelques minutes là. Allez, c'est parti. Behind the Wolf, je me rappelle plus le titre. Pulsar, un extrait de leur premier album. Donc on retrouvera à l'Angers Geek Fest. Ouais, là ils sont sur Radio G, mais on les retrouvera sur scène. Ça va être mon premier concert de rock depuis janvier 2020.
On sent qu'il est pressé. Alors par contre, je te rappelle que le concert de rock se fera sans bière à la main. Ça va beaucoup changer, mais
c'est pas grave. Bon, allez, on parle aussi du Salon Imaginaire.
D'accord.
Oui, donc ce sera le week-end d'après, ce sera samedi 24 octobre au Salon Kurnonski.
Samedi uniquement, parce que nous sommes des petits joueurs, surtout qu'on est
gratos
une semaine.
De 10h à 19h.
Tout à fait. Avec un événement particulier, et c'est celui-là qu'il ne faut pas louper, c'est la présence de Jean-Marc Ligny, puisque Jean-Marc Ligny reçoit son prix imaginaire 2020.
Et la présence de Sarah Doc pour lui remettre ce prix.
Pourquoi Sarah Doc d'ailleurs?
Parce que c'était la compagne de Yael Ayandal à qui on rend hommage aussi à travers ce prix littéraire. Tout à
fait. Imaginaire a donc choisi de continuer à faire vivre l'esprit de Yael Ayandal, qui a été un immense auteur dans l'imaginaire francophone et dans le polar francophone aussi. Et donc le prix va récompenser un auteur pour son apport à la littérature de l'imaginaire et du polar chaque année. Cette année, il a été décidé que ce soit Jean-Marc Lény. Sarah Doc remet donc le prix. Mais ce ne sont pas les seuls invités que nous avons, puisque nous pourrons bénéficier de la présence de Florian Soulas, par exemple, qui était l'année dernière, autrice chez Scrineo et de nombreuses nouvelles, Morgan of Glencoe, excusez-moi, je suis en train de finir de mourir, autrice chez ActuSF pour du steampunk français.
Ouais, je vois qu'on aura un invité chilien, Gilberto Villarroel. Hein,
exactement.
Dont j'avais lu Cthulhu contre Cochrane aux Forges de Vulcain.
Exactement.
Qui est un réalisateur de documentaires chilien qui, oui, s'est expatrié à Paris où il écrit maintenant.
Tout à fait.
D'ailleurs, il viendra deux fois, parce que là, je vois qu'il est en double sur notre page.
Non, il est pas.
imaginaire.fr/invité. Si vous voulez avoir tous les invités.
Thomas Géan, notre parrain, qui revient après pas mal d'années d'absence.
Thomas revient.
Et il sera accompagné notamment de Laurent Whale. Lui, bah, en fait, on lui a annoncé qu'il y aurait un bar. Alors il vient venir s'accouder au bar. Cindy Canefé sera forcément là. C'est elle qui a réalisé notre affiche. Et puis dans les illustrateurs, puisque nous y sommes, Ronald Bousseau, Fabien Colleno, Lola Colleno.
On n'a pas dit d'ailleurs que le week-end prochain, à l'Angers Geek Fest, on aura aussi des illustrateurs sur notre stand.
Et bah oui.
Et justement,
Guillaume Albin,
donc célèbre pour ses bandes dessinées, voire livre-jeu du donjon de Nullbuck. Ronald Bousseau, un local, on va dire, que vous connaissez peut-être depuis le temps. Et puis le troisième,
Tony
Emerio, oui. Monsieur BD Geek, à dire. En juin. On les retrouvera tous aussi au Salon Imaginaire. Ouais, je vois qu'on aura aussi Sandy Lagdar, que les gens connaissent plus peut-être pour ses interventions télévisées. C'est une chasseuse de fantômes professionnelle, hein, qui est à l'œuvre sur C8 de temps en temps. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir dans notre prochaine émission, qui a ouvert récemment une boutique sur Angers. Ouais. Et je vois qu'on aura aussi J.R. Commoncroft, un local aussi dans le premier roman. Distorsion est un roman d'épouvante et qu'on aura aussi probablement dans notre prochaine émission aussi pour Halloween. On a perdu Pierre-Marie.
Oui, tout
des animations au Salon Imaginaire.
Les animations, il n'y en aura que deux, puisqu'il n'y aura que la remise du prix et un concert d'un groupe de musique classique qui va reprendre des thèmes de la pop culture.
Et des thèmes classiques aussi. Hein.
Et des thèmes classiques. Aussi, apparemment, tu t'y connais, tu sais mieux que moi.
J'ai vu la liste.
Avec des cuivres, des cordes et beaucoup de vent aussi. Une demi-heure de 18h30 à 19h.
Ok. Bon. Finalement, on a tout dit.
Il n'y a plus qu'à venir.
Il y a plein de choses à faire. Non, il y a une quarantaine d'intervenants qui seront là, entre des éditions, puisqu'il y a l'association des auteurs indépendants du Grand Ouest. Ouest.